Merci d'écouter RFI. 8h à Washington, il est 9h à Port-au-Prince et 13h en temps universel. Dernière partie de RFI Midi avec les États-Unis à la une et la fin d'une campagne électorale ultra tendue au point que certains militants démocrates appréhendent les opérations de distribution de tracts dans les zones à majorité républicaine. Vous l'entendrez dans quelques minutes, on parlera aussi du vote afro-américain et des glissements qui s'opèrent chez les religieux. Nous serons en ligne ensuite avec nos confrères du site haïtien Aïbo Post pour parler de la violence des gangs qui aggrave la crise alimentaire et puis les agriculteurs de Martinique dans les Antilles françaises. Eux veulent participer à la lutte contre la vie chère, Benoît Ferrand.
Oui, l'OPAM, l'Organisation patriotique des agriculteurs de Martinique, a un objectif simple, proposer aux consommateurs des produits sains et bien sûr, autant que faire se peut, à des prix accessibles.
À tout à l'heure et tout de suite, c'est le journal. J-4 aux États-Unis, 4 jours avant la présidentielle. Et ce vendredi, Donald Trump et Kamala Harris sont tous les deux dans le Wisconsin.
Oui, l'un des états clés qui devrait faire la différence mardi prochain. Cet état symbolise à lui seul l'indécision de cette élection tellement serrée qu'elle pourrait se jouer à quelques dizaines de milliers de voix. Kamala Harris sillonne ces états clés pour tenter de convaincre les électeurs indécis. La candidate démocrate n'oublie pas les républicains dits traditionnels. Certains d'entre eux la rejoignent, d'autres sont hésitants. Nous retrouvons Guillaume Nodin à Washington.
La dernière figure républicaine à annoncer son vote pour Kamala Harris, c'est Arnold Schwarzenegger, l'acteur et ancien gouverneur de Californie, publie un long message sur les réseaux sociaux pour dire qu'il vote Kamala Harris et Tim Walz un peu à reculons, mais qu'il ne peut pas, après le 6 janvier 2021, voter pour le candidat de son parti. Il rejoint ainsi l'ancienne représentante Liz Cheney et le père de celle-ci, l'ancien vice-président Dick Cheney, honni en son temps par les démocrates. D'autres ont déjà indiqué depuis longtemps qu'ils ne soutiendraient pas Donald Trump, sans pour autant annoncer un vote pour la candidate démocrate. C'est le cas de l'ancien vice-président Mike Pence, que les émeutiers du Capitole voulaient pendre. Et puis il y a ceux qui gardent le silence, par exemple George W. Bush, le dernier ancien président républicain vivant avant Donald Trump, ne soutient personne, et notamment pas le candidat de son parti. Son entourage a déjà fait savoir qu'il n'annoncera rien du tout, qu'à 78 ans, il a tourné la page de la politique, il se consacre à la peinture. Toute sa famille n'est pas aussi neutre, l'une de ses filles, Barbara Bush, soutient publiquement Kamala Harris, elle est même allée faire du porte-à-porte pour la candidate démocrate en Pennsylvanie, et on n'a pas entendu dire que son père le lui avait reproché. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Également dans l'actualité, la suite des inondations catastrophiques en Espagne.
L'Espagne où le cap des 200 morts a été franchi, précisément 205 morts en début de semaine dans le sud-ouest du pays, selon un nouveau bilan qui est provisoire car les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver de nombreux disparus, des dizaines de disparus. Ce matin, la ministre de la Défense a annoncé l'envoi de 500 soldats supplémentaires. Ils s'ajouteront aux 1200 militaires qui participent aux opérations de secours et d'aide aux victimes. Des appels à l'aide poignants de la part d'habitants désespérés, de petits villages livrés à eux-mêmes. Donc des appels se multiplient sur les radios et télévisions espagnoles. Quant aux dégâts, il est encore trop tôt pour les chiffrer précisément. Mais on sait déjà qu'il s'annonce considérable dans une région importante pour l'économie espagnole, Margot Ratézic.
Les estimations sont encore vagues, mais les chiffres s'annoncent colossaux. Rares sont les secteurs qui échappent aux conséquences économiques des inondations, comme l'explique Jason Graffam de l'agence de notation financière Morningstar DBRS.
La région de Valence est la quatrième économie du pays. L'industrie y est importante, notamment l'automobile. Il y a une usine Ford, mais aussi de l'industrie manufacturière. Nous avons également des cultures endommagées et des pertes de nourriture.
La dernière catastrophe d'ampleur en Espagne remonte à 2019 sur les côtes méditerranéennes. À l'époque, déjà, les dégâts s'élevaient à plus de 2 milliards d'euros. On attend donc des sommes encore plus importantes pour ces inondations historiques. Mais Jason Graffam craint surtout les conséquences sur les Espagnols les plus modestes.
Les catastrophes naturelles ont des conséquences économiques inégales. Je me suis penché sur certains travaux de recherche réalisés à la suite des inondations en Allemagne en 2021. Certaines conclusions indiquaient qu'elles avaient touché de manière disproportionnée les personnes à faible revenu.
Plusieurs associations ont demandé au gouvernement espagnol de déclarer l'état d'urgence afin de débloquer des aides exceptionnelles pour les territoires les plus sévèrement touchés.
Margot Ratezic. Des intempéries meurtrières aussi à l'autre bout du globe. Au moins 2 morts, près de 600 blessés à Taïwan après le passage d'un typhon, l'un des plus gros typhons que l'île ait connu ces dernières décennies. New Delhi, la capitale de l'Inde, est actuellement plongée dans un nuage encore plus toxique que d'habitude. La pollution atmosphérique s'est aggravée sous l'effet des feux d'artifice lancés à l'occasion de la fête hindoue du Diwali, malgré les interdictions. Les chefs des diplomaties russes et nord-coréennes se rencontrent aujourd'hui à Moscou, au moment où l'Occident dénonce l'envoi de soldats nord-coréens combattre contre l'Ukraine. Selon Washington, quelques 8000 soldats venus de Pyongyang sont en Russie pour se préparer au combat.
Des violences en France la nuit dernière à Poitiers, dans le centre-ouest du pays.
Oui, 5 personnes ont été grièvement blessées dans une fusillade liée au trafic de drogue. Un des blessés, âgé de 15 ans, est entre la vie et la mort. Frédéric Genot.
Pour le ministre de l'Intérieur, plusieurs centaines de personnes auraient participé à l'affrontement de ces bandes rivales. Les policiers sur place estiment plutôt le nombre de personnes impliquées entre 40 et 60. L'enquête est en cours et devrait pouvoir s'appuyer sur les images vidéo du quartier, comme l'a dit Léonore Monconduit, la maire de Poitiers, à France Info.
C'est une fusillade qui s'est déclenchée dans le quartier des Couronneries, qui est l'un des quartiers prioritaires les plus peuplés de la ville de Poitiers, et donc où il y avait un nombre de publics assez important. Ça a généré des tensions, effectivement, entre jeunes, qui ont ensuite conduit à une rixe, effectivement. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont assisté à la scène. Néanmoins, on ne peut pas parler aujourd'hui d'émeutes ou quoi à Poitiers. Ça, voilà, c'est l'épisode d'hier soir qui a été particulièrement violent.
À Valence, hier soir, une autre fusillade liée au trafic de drogue a fait un blessé grave, un jeune homme d'une 20aine d'années. La circulation de la drogue concerne tout le territoire français, y compris les petites villes de province. Parmi les raisons qui expliquent le grand nombre de blessés, il y a d'une part les armes, puissantes et faciles à acheter sur des réseaux comme Telegram, et d'autre part le manque de cadre de ces trafiquants, de plus en plus jeunes.
Et pour le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, la France, est, je le cite, est un point de bascule face au trafic de drogue.
Bientôt la fin de la COP pour la biodiversité en Colombie.
Oui, les pays participants n'ont plus que ce vendredi pour se mettre d'accord sur un plan financier de sauvegarde du vivant d'ici à 2030. La séance plénière doit répondre à de nombreuses questions encore en suspens. Tout le monde devra renoncer à quelque chose, a prévenu la présidente colombienne. Et dans le même temps, eh bien, on prépare déjà la COP 17 en 2026. Théo Renaudon, bonjour.
Bonjour.
C'est l'Arménie qui a été choisie pour accueillir cette prochaine COP face à l'Azerbaïdjan.
Oui, les deux pays étaient en lice pour accueillir cette 17e conférence des Nations Unies sur la sauvegarde de la nature. Deux pays du Caucase, ennemis jurés, en conflit depuis des décennies. Les départager n'a donc pas été chose facile. Pour la première fois de l'histoire, la COP biodiversité, depuis 30 ans, les États ont dû voter à bulletin secret. Résultat, 65 voix pour l'Arménie, 58 pour l'Azerbaïdjan. Épilogue donc d'une véritable lutte d'influence au sein de la COP.
Et tout ça est en fait l'illustration des tensions qui se poursuivent entre les deux pays.
Les deux anciennes républiques soviétiques s'affrontent à propos du Haut-Karabakh. Souvenez-vous, c'est cette enclave montagneuse où vivent une majorité d'Arméniens. Mais l'Azerbaïdjan a envahi la zone l'an dernier, poussant à l'exode de 120 000 Arméniens. Depuis, la lutte s'exporte sur la scène internationale, comme à propos de cette COP, une manche donc remportée par l'Arménie.
Théo Renaudon, merci, très bonne journée à vous sur RFI. 14h08, l'heure de retrouver Anne Cantner.
Merci Gilles Moreau. Le prochain point sur l'actualité internationale, c'est dans une heure sur RFI. Et nous allons nous concentrer sur le continent américain durant les 20 prochaines minutes. Nous irons en Haïti, mais d'abord aux États-Unis où la campagne électorale se poursuit. La course est toujours aussi serrée et les candidats enchaînent les meetings à un rythme effréné.
USA 2024.
Donald Trump et Kamala Harris sont tous les deux dans le Wisconsin aujourd'hui, encore un état clé où l'issue du vote est très incertaine et le candidat républicain en profite pour continuer d'alimenter le doute sur la fiabilité du processus et donc sur la fiabilité des résultats. Il l'a dit encore hier soir lors d'un échange public avec l'ancienne star de la chaîne Fox News, Tucker Carlson, en s'en prenant au passage de manière brutale aux immigrés. Écoutez.
We gotta keep their cheating down, but think of this. With all I've been through, with these animals coming and what
nous devons faire en sorte qu'ils ne trichent pas. Mais pensez-y, avec tout ce que j'ai vécu avec ces animaux qui viennent et à ce qu'ils ont fait à ce pays, pensez au mal qu'ils ont fait aux États-Unis entre les frontières et l'armement. Et notez ceci, j'ai beaucoup d'avance, Je suis en tête dans tous les États clés. Voilà ce qu'a dit Donald Trump. C'est faux. Les sondages donnent les deux candidats vraiment au coude à coude dans les États clés, avec seulement un point d'écart la plupart du temps. Et Kamala Harris est en tête dans deux d'entre eux, selon le New York Times. Dans ce contexte, chaque voix compte. En plus des meetings, les deux camps multiplient les opérations de porte à porte avec des distributions de tracts. Mais dans une Amérique de plus en plus polarisée et dans un climat de tension très vive, il est parfois difficile de s'adresser à ses adversaires politiques. Reportage d'Edouard Maille à Gastonia, en Caroline du Nord, auprès de militants démocrates pas tout à fait sereins.
Des militants s'apprêtent à aller faire du porte-à-porte. Si aujourd'hui le quartier est plutôt démocrate et ne devrait pas présenter de difficultés, ce n'est pas toujours le cas. Jennifer Lurie s'est fait expulser d'un marché local dans un comté républicain.
La direction du marché local a une réunion après et ils ont décidé de changer leurs règles et interdire les partis politiques. Mais jusque-là, les républicains y allaient pendant des années.
Et elle n'est pas la seule à avoir rencontré de telles difficultés. Crystal, elle, habite dans une région républicaine et a décidé de ne plus afficher ses convictions politiques.
Je connais des gens qui vont voter Harris et Walz, mais dans les régions rurales, on ne met pas de pancarte par peur de représailles. Il y a quelques années, quelqu'un a trouvé mes informations électorales et m'a ensuite harcelé en ligne.
Pourtant, celle qui a grandi dans une région rurale explique que ce n'était pas comme ça avant.
Il y a 10 ans, ce n'était pas comme ça. Je n'avais pas peur d'afficher en public pour qui j'allais voter.
Désormais, la militante souhaite seulement tracter dans des régions démocrates où l'enjeu est d'augmenter la participation électorale. Edouard Maille, Gastonia en Caroline du Nord, RFI.
Le climat politique très tendu, l'incertitude sur la réaction du camp Trump en cas de défaite à la fin d'une campagne marquée par 2 tentatives d'assassinat et un changement de candidat démocrate en cours de route, tout cela amène le quotidien USA Today à afficher en une ces mots sur un fond noir. United States of Anxiety, les États-Unis de l'angoisse. Parmi les facteurs qui pourraient faire la différence entre les deux camps, il y a la question religieuse, notamment pour le vote afro-américain, traditionnellement plutôt acquis aux démocrates. Mais au sein de cette communauté, des hommes conservateurs ont du mal à endosser les thèses défendues par Kamala Harris et même du mal à envisager d'élire une femme à la présidence. Ce sont ces mêmes hommes qui se sont éloignés ces dernières années des églises traditionnelles, comme nous l'explique le sociologue Jason Shelton de l'université d'Arlington au Texas. Il répond à Véronique Guémard.
We vote democratic, at least historically, and again, most of us will vote democratic in this election.
Nous votons démocrate, du moins historiquement, et la plupart d'entre nous voterons démocrate lors de cette élection. Mais nous votons démocrate principalement sur les questions d'inégalité et de disparité liées à la race et à la pauvreté. Lorsqu'il s'agit de questions liées à la sexualité, à l'homosexualité, au mariage gay et à d'autres sujets connexes, les Afro-Américains sont très conservateurs sur le plan sociétal. Nous sommes également très conservateurs en ce qui concerne le rôle des femmes dans la société, bien qu'il y ait eu une évolution significative parmi les Afro-Américains. Une des choses que je constate dans mon livre, c'est que, par exemple, les Blancs qui ont quitté la religion organisée ont tendance à être très libéraux sur le plan politique, très ouverts sur les questions liées au LGBTQ, sur le rôle des femmes dans la société. Ils sont beaucoup plus progressistes. En revanche, les Afro-Américains qui ont quitté la religion organisée sont beaucoup plus conservateurs, plus enclins à dire que la place de la femme est au foyer. Ils sont beaucoup moins enclins à dire qu'ils sont favorables au mariage homosexuel. Et les protestants sans étiquette et les sans religion ont tendance à pencher vers le conservatisme.
Et cette frange d'Afro-Américains les plus conservateurs qui ont quitté les églises noires traditionnelles, qu'est-ce qu'ils représentent, Jason Shelton ?
S'il y a 100 hommes noirs dans la salle qui vont voter, je dirais qu'au moins 70, voire 80 d'entre eux vont voter pour Kamala Harris lors de cette élection présidentielle. Mais ce que nous constatons également, c'est qu'ils n'ont jamais été aussi nombreux. 20% ou peut-être 30% à être moins favorables à une candidate afro-américaine. Je constate que les Afro-Américains qui ont quitté la religion organisée sont surtout des hommes. Ils sont moins enclins à dire qu'ils soutiendrait une femme qui deviendrait présidente des États-Unis. Il y a donc là un conservatisme. Il y a un sexisme qui dit « je ne suis pas prêt pour ça ». Mais soyons clairs, la plupart des Afro-Américains de sexe masculin aux États-Unis vont voter pour Kamala Harris. Mais dans une élection aussi serrée, qui se décide à la marge, ça compte. On parle d'hommes noirs qui vivent dans des endroits comme Détroit, Philadelphie ou Pittsburgh en Pennsylvanie. C'est de ceux-là dont Kamala Harris a besoin.
Jason Shelton, est-ce qu'on assiste en particulier pour cette élection à un effritement du vote afro-américain ?
Ce que nous voyons aujourd'hui plus que jamais, c'est la diversité de l'Amérique noire. J'ai 48 ans. Au cours de ma vie, je n'ai jamais vu une élection présidentielle où il y avait de telles différences systématiques entre les Afro-Américains en ce qui concerne le vote. Nous avons toujours su que la plupart des Noirs allaient voter pour les démocrates, et nous pouvons encore le faire. Mais l'Amérique noire est arrivée à un stade où les différences entre nous tous peuvent influencer le résultat d'une élection présidentielle. Nous n'avons jamais vu cela auparavant parce qu'on a toujours supposé que l'écrasante majorité des Noirs ferait toujours la même chose. Or, entre 20 et 30% des Noirs de sexe masculin se sont laissés séduire par les Républicains, ce qui représente un chiffre très important. On ne peut pas ignorer 20 à 30% des votes. C'est un chiffre qui crée une dynamique. Nous verrons si ce chiffre se maintient dans cette élection.
Jason Shelton, professeur de sociologie à l'université d'Arlington au Texas. Vous pourrez l'écouter plus longuement dans l'émission Religion du Monde avec Véronique Guémard, dimanche à 10h10, temps universel. L'émission est consacrée cette semaine au poids des religieux dans cette élection américaine. Et puis si vous n'êtes pas disponible à cette heure-là, l'émission sera bien sûr disponible, elle, sur l'appli RFI Pure Radio. On a aussi beaucoup parlé ces dernières semaines du vote latino, très courtisé par Kamala Harris. Elle en aura besoin pour gagner le 5 novembre. Ce groupe hétérogène représente 14% de l'électorat américain et parmi eux, 36 millions de personnes sont mexicaines ou d'origine mexicaine. Par ailleurs, le Mexique est directement concerné par la politique migratoire du nouveau président ou de la nouvelle présidente et il devra aussi travailler avec lui ou elle sur la lutte contre le trafic de drogue ou encore les accords commerciaux. Gwendolina Duval, vous êtes notre correspondante à Mexico où l'on suit cette campagne avec attention et avec une certaine appréhension.
Le mot qui domine au Mexique quand on parle de ces élections, c'est l'incertitude. Déjà quant au résultat du scrutin et ensuite sur le scénario qui va se dessiner après la victoire de l'un ou l'autre des candidats. Surtout si c'est Donald Trump, tellement le représentant du Parti républicain est imprévisible. Dans la presse d'opinion, certains ont pu redouter les effets d'un ouragan sur l'économie du pays en cas de victoire du candidat. Dans tous les cas, on se rassure dans le sens où on sait que même si le Mexique dépend de son voisin américain, les États-Unis ne peuvent rien faire sans le Mexique. Ils sont chacun leurs principaux partenaires commerciaux, leurs économies sont très intimement liées et donc les deux pays n'ont pas d'autre choix que d'entretenir de bonnes relations.
Et justement, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'entente de la nouvelle présidente mexicaine avec Kamala Harris ou avec Donald Trump ?
A priori, ça fonctionnera. Claudia Sheinbaum est restée très neutre, elle n'a montré aucun signe de préférence et a déclaré à plusieurs reprises que son gouvernement travaillera aussi bien avec Kamala Harris qu'avec Donald Trump. D'un côté, certains se réjouissent à l'idée de voir une collaboration entre deux femmes présidentes en Amérique du Nord, avec peut-être des points communs sur des questions de société ou d'écologie. Mais de l'autre côté, c'est intéressant de rappeler que les relations entre l'ex-président Donald Trump et le prédécesseur de Sheinbaum étaient plutôt très bonnes. La présidente mexicaine actuelle est dans la même lignée et finalement ils se retrouvent sur une certaine vision nationaliste et une politique étatique.
Et quels sont les grands enjeux que le futur président ou la future présidente des États-Unis devra gérer avec le Mexique ?
En tout premier lieu, ce sera la révision de l'accord de libre-échange qui doit se conclure en 2026. Ça risque de se compliquer, notamment à cause du fort protectionnisme de Donald Trump. Il a averti qu'il interdirait l'importation de produits chinois en provenance du Mexique. Le pays craint que cette simple révision ne se transforme en renégociation, surtout en utilisant la migration comme moyen de pression. La question migratoire est évidemment l'autre grand sujet. Trump a un discours particulièrement hostile. Mais dans les faits, la vice-présidente Kamala Harris, avec le gouvernement Biden, a maintenu une politique très restrictive envers les migrants. Et la démocrate a promis de durcir encore plus les conditions d'entrée sur le territoire. La sécurité, enfin, sera un enjeu crucial avec la lutte contre le narcotrafic. Et là-dessus, Kamala Harris s'est dite ouverte à plus de coopération entre les deux pays.
Gwendolina Duval, correspondante de RFI au Mexique.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Un pas de plus dans le déploiement de la mission multinationale en Haïti. Les parlementaires du Salvador ont donné leur feu vert à l'envoi d'un contingent militaire dans le pays. L'information est à lire dans le quotidien Le Nouvelliste aujourd'hui. Les élus ont ratifié hier l'accord de protection pour les membres de cette mission à une très large majorité, mais il reste une zone d'incertitude. La représentante de la chancellerie a assuré que le contingent devrait être chargé d'opérations médicales, ce qui n'est pas mentionné dans le texte publié par l'Assemblée. Et on continue de parler d'Haïti avec nos confrères du site Haïbopost, comme chaque premier vendredi du mois. Ce site, c'est une référence en Haïti, hein, réputée pour la qualité de ses enquêtes et de ses reportages. Bonjour Jérôme Wendy-Norestil.
Bonjour.
Vous signez un reportage auprès d'agriculteurs qui sont très affectés par l'insécurité et la violence des bandes criminelles. Vous êtes rendu à Fonvérette, à l'est de la capitale, dans l'arrondissement de Croix-des-Bouquets. Et là, des tonnes de légumes de plantation sont gaspillées.
Oui, effectivement. Je parle bien de Fonvérette, qui est située dans l'arrondissement de Port-au-Prince, et surtout Carrefour, un petit peu dans la rue de la capitale. Il y a tantôt 2 ans, les gangs font une sorte de mémise sur plusieurs régions de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, ce qui affecte différentes communes du département de l'Ouest, y compris les zones pour lesquelles nous avions mené ce reportage. À Fonvérette, c'est une zone principalement connue pour ses cultures de légumes, de pommes de terre, de carottes, etc. Et donc, à Carrefour aussi, il y a on cultive et beaucoup de plantations aussi. Donc, dans ces zones, et principalement Fonvérette, il y a un problème qui se pose par rapport avec le blocage de la route nationale numéro 8, surtout, qui permet aux agriculteurs d'écouler leurs produits, surtout dans les communes de Port-au-Prince, d'Elma et d'autres endroits.
Voilà. Et à Fonvérette, où vous vous êtes rendu, on voit par exemple des légumes pourrir sur place parce que donc il n'est pas possible d'aller les vendre pour les agriculteurs. Et pourtant, vous nous le disiez, il y a une route entre Fonvérette et Port-au-Prince, mais plusieurs des agriculteurs que vous avez rencontrés préfèrent ne pas l'emprunter.
Et oui, c'est le cas de Shirley, par exemple. Les gens sont obligés de contourner par des autres zones frontalières, c'est-à-dire par exemple à Elias Pina, c'est le cas de Shirley, pour écouler leurs produits.
Elle passe par la République dominicaine.
Exactement. C'est-à-dire qu'il y a des zones et frontalières et que les gens empruntent d'habitude et comme ça, ils organisent leur transport depuis Fonvérette jusqu'à la capitale. Donc, non seulement le coût du transport augmente, mais aussi le trajet, ça devient plus long. Donc, cela devient très difficile de rentabiliser notre production.
Et on va écouter justement le témoignage de Shirley Jean-Paul que vous avez rencontré pour votre reportage.
On peut dire qu'il s'agit d'un échec total. Personne n'a retiré de bénéfice par rapport à ce qu'il a dépensé, pas même 50%. On enregistre que des pertes. J'avais une plantation d'oignons pour laquelle j'ai investi 200 000 gourdes, ce qui n'est pas une somme énorme en achat de plants et autres frais. J'ai récolté une quantité de produits qui aurait pu me permettre de récupérer cet investissement. Pourtant, je n'ai vendu que l'équivalent de 75 000 gourdes. Vous pouvez imaginer l'ampleur de la perte.
Cette situation, elle aggrave aussi l'insécurité alimentaire en Haïti. C'est ce que vous a expliqué la Coordination nationale de la sécurité alimentaire.
Cela fait pratiquement 2 ans que cet organisme alerte sur une prévalence de l'insécurité alimentaire. Mais cette année-là, ça s'est augmenté à cause surtout de la violence des gangs de différentes régions et de l'aire métropolitaine ou dans d'autres départements du pays, par exemple le département de l'Artibonite. Plusieurs de ces zones qui sont considérées comme des bastions de l'agriculture, donc les gens ne peuvent plus se rendre dans d'autres endroits du pays pour écouler leurs produits. Cela devient très difficile. Donc, quelque part, la présence des gangs affecte ou bien augmente la prévalence de l'insécurité alimentaire dans le pays, selon l'organisme CNSA.
Une situation donc de plus en plus difficile et l'état d'esprit des habitants vous a été résumé par un technicien agricole et vétérinaire de Carrefour qui a investi 2 millions de gourdes dans une production de grenadilles. Voilà ce qu'il vous a dit.
La situation sécuritaire est compliquée, de plus en plus compliquée. Et pour cette raison, j'ai envie d'abandonner toutes mes activités définitivement et de quitter le pays. Car le plus grand tort que nous ayons commis est de rester ici dans l'espoir d'être utile. C'est ce que je ressens. J'ai l'impression que c'était ça mon erreur.
Voilà donc ce que vous a dit un habitant de Carrefour. Merci Jérôme Wendy-Norestil. Votre article, des tonnes de données, de denrées perdues à cause de la violence armée dans les zones rurales, est à lire sur le site haibopost.com. Et puis un dernier mot d'Haïti. Haïti change d'heure ce dimanche, ce qui signifie que la semaine prochaine, l'heure de l'émission sera différente. Vous nous écouterez à partir de 8h10.
Le journal de l'Outre-mer.
avec nos confrères de La Première. Et on vous retrouve, Benoît Ferrand, pour parler d'abord de la Martinique, où les agriculteurs locaux veulent eux aussi apporter leur contribution à la lutte contre la vie chère.
Absolument. L'OPAM, l'Organisation Patriotique des Agriculteurs Martiniquais, tel est son nom, a tenu hier une réunion à Ducos avec un objectif simple, en tout cas dans le principe, proposer aux consommateurs locaux des produits sains et, si possible et autant que faire se pourra, à des prix accessibles. Reportage Christine Cupit.
Pour les membres de l'OPAM, il faut retourner à une agriculture nourricière en favorisant la vente directe de producteurs à consommateurs. Mais il faut aussi réduire les coûts de production afin de proposer des prix accessibles. Jonathan Lery Agara, vice-président de l'OPAM.
Oui, c'est possible de baisser nos coûts de production si on arrive à mieux planter ensemble. Je veux dire par là que dans l'organisation de 3 fermes sur un même territoire, on peut se partager un tracteur. Il y a des 6 cas qui sont possibles, qu'on peut monter, qui nous permettraient de pouvoir mieux nous organiser ensemble. Par exemple, 3 agriculteurs dans une même ville qui veulent transformer leurs produits, un veut faire du jus, un veut faire du sirop, ou encore un autre veut faire de la confiture, on va se partager les mêmes espaces de transformation pour faire descendre les coûts à la fois d'électricité et l'eau, mais aussi des matières premières ensemble.
Les agriculteurs de l'OPAM ont prévu d'autres séances de travail afin d'apporter des solutions à la problématique de la vie chère.
On ne quitte pas la terre martiniquaise avec, c'est une première d'ailleurs, dans l'île des Antilles, la création d'un groupement d'employeurs agricoles ce mercredi au Lamantin. Le groupement va recruter lui-même des travailleurs qui seront ensuite dispatchés, entre guillemets, sur les exploitations, chacune selon ses besoins du moment. Initiative plus que nécessaire selon Jean-Marc Adianani, président de la coopérative des éleveurs de Martinique. Il est au micro de Christine Cupit.
L'objectif du groupement d'employeurs agricoles de Martinique est vraiment la mutualisation d'une main-d'œuvre qualifiée. Cela répond à plusieurs problématiques, donc des problématiques liées à l'emploi, donc des problématiques, on va dire, de pénibilité de l'emploi, des problématiques aussi liées au vieillissement de la population des agriculteurs, des problématiques des fois liées à de la formation du personnel et une inadéquation avec le projet professionnel. Et cela répond aussi positivement, bien sûr, à la réduction de coûts de production que les agriculteurs recherchent et bien sûr une problématique liées des fois à des besoins occasionnels de main-d'œuvre. Donc le groupement d'employeurs va pouvoir mettre à disposition de la main-d'œuvre qualifiée, donc des ouvriers polyvalents, soit éleveurs ou soit agriculteurs, à disposition des exploitations agricoles, donc pour des besoins saisonniers, pour des besoins justement occasionnels. Et ça va leur permettre justement d'avoir ce panel de compétences sur les exploitations, sur toute la partie machinisme, donc sur les engins agricoles, les tracteurs, etc. Mais également dans les tâches quotidiennes pour justement réduire la pénibilité.
Bon après-midi, bon week-end, Anne, à lundi.
À lundi, Benoît Ferrand. Et on se quitte en musique. Avec le titre Rosa que Linda Eres, issu du nouvel album du groupe La Besse, c'est à écouter ce mois-ci dans la playlist RFI.
لكن في ذات قلبي ما زال نهوى سبحان ذو الجلال وردة محلى عيت ومشيت وريت ما لقيت سواك راسك يا لينا عيس راسك يا لينا عيس راسك مرابيوسا راسك يا لينا We'll be right back.
Rosa Kelinda Eres du groupe Labès, c'est à écouter ce mois-ci dans la playlist RFI et c'est ainsi que se termine RFI Midi. Je vous donne rendez-vous lundi, 11h30, temps universel. Mais vous restez avec nous. Dans quelques secondes maintenant, Littérature sans frontières. Très bonne journée à tous.